Bac FM, il est 19h, Prévence exceptionnellement ce jeudi pour échanger sur le sujet le plus important en termes de prévention au mois d'octobre, Octobre Rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer, du sein et à récolter des fonds aussi pour la recherche. Juste avant de retrouver le témoignage très touchant et très intéressant de Christelle, touchée par la maladie, qui nous explique les étapes surmontées, la force mentale importante dans cette épreuve et les actions qu'elle met en place maintenant pour ces femmes touchées par le cancer du sein, je reçois ma première invitée. Elle est directrice de la Ligue contre le cancer dans la Nièvre. Bonjour Isabelle Foulatière.
Bonjour.
Presque 58 500 nouveaux cas de femmes atteintes du cancer du sein chaque année. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes et le plus meurtrier. Comment la Ligue contre le cancer les accompagne, ces femmes-là ?
Alors l'accompagnement de ces femmes se fait par le biais des soins de support sur la Nièvre, comme dans les autres départements, hein, en tout cas pour la Ligue contre le cancer.
Et le processus reste le même département par département, oui.
Après, toutes les actions ne sont pas dupliquées sur tous les départements, parce qu'en fait, tout vient des dons.
D'accord.
On n'a aucune subvention publique, on est subventionné que par des dons.
D'accord.
Ce qui limite aussi les moyens d'action.
Ouais, évidemment, oui.
Donc, par exemple, nous, sur la Nièvre, on propose du soutien moral et de l'accompagnement. Donc, ça peut se faire à domicile ou dans nos locaux, ou dans les établissements de soins. On propose des séances d'activités physiques adaptées. Donc l'activité physique adaptée, c'est pas du sport, hein, c'est bien de l'activité physique adaptée en fonction des pathologies et des traitements, pendant ou post-cancer.
C'est les spécialistes qui sont spécialisés dans cette manière de faire.
Tout à fait, et exactement. Et dans le cadre du cancer du sein, par exemple, on a deux activités spécifiques et vraiment réservées aux femmes ayant été atteintes d'un cancer du sein. C'est le Dragon Boat, donc c'est un bateau où elles sont 10 femmes, où il faut ramer, et ça lutte contre le lymphœdème, etc. Et puis, on a également l'escrime, qui est aussi un sport adapté en cas de cancer du sein. Au-delà de cette activité physique adaptée, on propose également des groupes de convivialité thérapeutique avec la présence d'un psychologue en partenariat avec le centre hospitalier de Nevers. Et puis, des aides financières, parce qu'effectivement, quand vous êtes malade, que vous êtes jeune, que vous êtes en arrêt maladie, si vous travaillez dans le privé, très vite, votre situation financière se dégrade parce que vous tombez à mi-traitement, sauf que vos charges, elles ne changent pas. Donc voilà, on propose ces différentes choses et des ateliers de socio-esthétique.
Il y a une aide aussi, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une aide, j'aimerais qu'on revienne rapidement dessus sur le comité éthique et cancer. Alors, c'est une action nationale, mais c'est intéressant quand même de savoir ce que c'est.
Mais
que
quand il y a une question d'éthique, quand une question d'éthique peut se poser lors d'un traitement pendant la maladie, on va prendre l'exemple d'un jeune mineur qui va avoir un traitement qui peut poser des problèmes de stérilité par la suite, et il peut y avoir des questions du mineur concernant par exemple la préservation des spermatozoïdes ou chez une jeune fille la préservation des ovules. Les parents peuvent être d'accord ou non. Et là, dans ces cas-là, un problème d'éthique se pose. Donc, c'est des questions qu'on peut faire remonter à la Ligue nationale contre le cancer, où il y a un comité destiné à cet usage-là, avec des spécialistes, des médecins, des professeurs, qui étudient ces questions et donnent leur avis. Voilà.
Dans vos actions, dans vos missions d'accompagnement, vous accompagnez les malades, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour les proches, leur manière de se comporter, leur manière d'accompagner aussi la personne malade?
Tout à fait. Donc ça, c'est plus spécifiquement le soutien moral, hein, qui est destiné aux malades et aux proches, parce que quand il y a un cancer dans une famille, c'est toute la famille qui est malade. On n'ose pas toujours se dire les choses parce qu'on se protège les uns et les autres. Et du coup, la communication devient difficile et l'accompagnement est difficile. Donc oui, les proches sont également soutenus, d'autant plus que le problème du cancer, c'est que c'est une maladie qui concerne aujourd'hui un homme sur deux, une femme sur trois, qui est soit complètement banalisé, c'est-à-dire que quelqu'un va dire, ben voilà, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, et la personne en face va lui dire, oh, ben c'est rien aujourd'hui, c'est
oui,
plus rien, ça se soigne très bien.
En ce moment, c'est commun, oui.
Sauf que non, c'est pas un rhume. Ou bien ça va être, oh, ma pauvre, t'as un cancer. Et là, enfin voilà. Et entre les deux, entre ces deux comportements-là,
il faut trouver le juste milieu, en fait.
Voilà. Et les gens savent pas toujours le trouver, savent pas toujours comment parler à la personne. Et en fait, elle finit même par s'isoler parce que les gens savent plus quoi lui dire, même lui demander comment ça va. Elle a encore envie d'entendre comment tu vas.
être considéré comme quelqu'un de normal, car c'est quelqu'un de normal et de pas
fait.
Forcément malade, toujours malade. Ne pas être trop dans le jean-foutisme, mais ne pas être trop dans la pitié non plus. En fait.
Exactement, il faut trouver le juste milieu et c'est pas toujours simple.
Vous parliez tout à l'heure aussi d'ateliers esthétiques aussi, par exemple. Est-ce que, toujours dans le terme un petit peu du jean-foutisme, entre guillemets, est-ce que c'est pour aussi inciter ces femmes à toujours prendre soin d'elles et à ne pas se laisser aller?
Alors déjà, c'est pas des ateliers d'esthétisme. Pas du tout, c'est des ateliers de socio-esthétique. La socio-esthétique, ça veut dire que c'est une personne formée à des populations soit en situation de précarité, soit en situation de fragile suite à une maladie chronique, par exemple. Ça veut dire que elle est spécialisée, par exemple, pour donner des conseils en lien avec tous les traitements, la chute des cheveux, les ongles qui sont fortement abîmés, le syndrome main-pied, comment masser une cicatrice quand on a eu une mastectomie pour ne pas avoir d'adhérence. Donc tout ça, elle est là pour promulguer ses conseils et travailler sur l'estime de soi, parce qu'effectivement, quand vous avez été en arrêt maladie, que vous avez perdu vos cheveux, vous avez porté une prothèse capillaire ou mis un fichu, peu importe, mais vous avez quitté le monde du travail, et puis un an et demi après, vous allez retourner vers votre situation professionnelle, mais vous avez peut-être pris un peu moins soin de vous, vous êtes peut-être moins occupé de vous, retravailler sur toute cette image d'estime de soi, c'est aussi son rôle, oui.
Quel est le progrès qui a été constaté au fil du temps concernant la guérison et l'accompagnement aussi ?
Alors, concernant la guérison, on guérit aujourd'hui beaucoup plus de cancers et on les détecte beaucoup plus tôt grâce aux campagnes de dépistage. Quant à l'accompagnement, il y a 10 ans de ça, beaucoup de soins de support n'existaient pas. L'activité physique adaptée, par exemple, n'existait pas. Alors qu'on sait aujourd'hui que ça lutte contre la récidive, enfin ça prévient les récidives, ça a une part importante dans la guérison aussi, ça limite la fatigue liée au traitement pendant la maladie. Donc toutes ces choses-là, on les voyait pas auparavant. Aujourd'hui, on les prône, elles sont mises en place et il faut les utiliser parce que vraiment c'est une source aussi de soutien et de lien social, tout ça, toutes ces actions-là.
Et ça passe par Octobre Rose. Aussi, Octobre Rose, c'est l'incitation au dépistage du sein. Est-ce que c'est une incitation car trop de femmes encore n'osent pas aller se faire dépister?
Alors effectivement, quand on prend les chiffres du dépistage du cancer du sein, en tout cas, on a pu constater que depuis la crise sanitaire, le taux de participation a fortement diminué, et particulièrement chez les femmes entre 50 et 60 ans. Or, ce dépistage, c'est ce qui va permettre à des femmes de trouver, s'il y a quelque chose, de trouver une lésion qui sera plus petite, qui donc permettra des traitements moins lourds et de meilleures chances de guérison. Donc on incite évidemment les femmes à se faire dépister entre 50 et 74 ans, hein, dans le cadre de la campagne de dépistage nationale. Elles sont invitées tous les 2 ans à aller passer une mammographie. C'est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Elles n'ont rien à avancer. Il y a une double lecture des clichés, ce qui valorise encore plus la mammographie. Voilà, moi vraiment j'incite à se faire ce dépistage. Et puis avant 50 ans...
Oui, voilà, j'allais y venir aussi, la palpation.
Voilà, avant 50 ans, l'autopalpation, donc à partir de 25 ans, il faut faire examiner ses seins tous les ans, soit par un gynécologue, soit par une sage-femme, soit par son médecin traitant. Mais la première des surveillances, et pour remarquer quelque chose qui peut changer, la première des surveillances, c'est de bien connaître son corps et de bien se connaître. Donc l'autopalpation déjà fréquente chez les jeunes, c'est vraiment important.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant l'incitation au dépistage, surtout peut-être pour les femmes qui nous écoutent?
Alors oui, les réticences sont souvent liées à la peur de la douleur de cet examen, etc. Avec les machines qu'il y a aujourd'hui, c'est plus les mammographies qu'on passait il y a 20 ans. Donc la douleur, effectivement, c'est pas un examen très agréable, mais c'est pas non plus quelque chose de très douloureux. Et sincèrement, ça peut sauver des vies.
Il faut rassurer dans l'appréhension aussi de cette étape-là. Et...
Voilà, donc allez-y.
Merci Isabelle Fouettière, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes, je le rappelle, la directrice de la Ligue contre le cancer dans la Nièvre. Juste avant de retrouver le témoignage de Christelle, je vous propose de faire une petite pause musicale. La Grenade, Clara Luciani sur Bac FM.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. sous mon sang là.
Bonjour Christelle.
Bonjour Théo.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur BAC FM à l'occasion de ce numéro de Prévence dédié à Octobre Rose. On va revenir sur votre parcours, sur les différentes étapes passées durant cette période et la reconstruction aussi. L'après et surtout votre rôle maintenant dans la prévention. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentiez pour les auditeurs qui nous écoutent.
D'accord, alors je m'appelle Christelle Marie, je suis de Moulins-en-Gilbert, je suis tombée malade en 2014. Et suite à cela, j'ai mis en place des petites choses que je voulais mettre pour la prévention contre le cancer du sein.
Justement, vous venez de le dire, c'est en 2014 que votre vie, elle change, qu'elle prend un certain tournant. Vous apprenez que vous êtes atteinte d'un cancer, un cancer du sein à évolution rapide. Comment on réagit à ce moment-là? Si je ne me trompe pas, c'est même pas vous qui avez appris en première que vous étiez atteinte de ce cancer.
Alors, à la base, donc quand tout a commencé, donc un matin, je me réveille et j'ai senti une boule sur le sein droit. Et donc,
vous l'avez senti ou c'était une palpation que vous vouliez faire de vous-même ou vous avez ressenti justement
non,
cette
c'est suite
cette
à une autopalpation. En fait, on nous conseille de faire des autopalpations et suite à l'annonce de la maladie de ma sœur, j'ai voulu régulièrement. C'est facile à dire, mais me toucher les seins pour faire attention à tout ça. Et j'ai découvert cette boule, quoi, en fait.
En vous réveillant un matin.
Voilà. Et suite à ça, donc, ça a été très, très vite. Le médecin traitant m'a envoyé à Dijon. J'y suis allée avec mon mari. Et de là, donc, le chirurgien qui m'a opéré m'a fait attendre dans une pièce et a pris mon mari à part et lui a annoncé que j'avais un cancer à évolution rapide, infiltrante, quoi, en fait.
Pourquoi prévenir avant le mari? Est-ce que vous savez la raison? Est-ce que vous pensez que c'est important aussi de prévenir les proches, peut-être avant la personne concernée? Est-ce qu'il y a une approche aussi morale, une approche psychologique aussi?
Non, je ne sais pas pourquoi il a préféré prévenir mon mari en premier, parce que donc on était tous les deux en face de lui, et puis il m'a envoyé dans la pièce me déshabiller. Et il a commencé à discuter avec mon mari, et il lui a dit, elle a un cancer avec des cellules assez importantes, donc on va devoir enlever le sein. Donc tout ça, il n'a pas voulu au départ me le dire tout de suite, et mon mari a dit, si, on peut lui en parler, justement, il ne faut pas lui cacher. Donc de là, je suis sortie de la pièce, il m'a tout expliqué, et puis après, ça a engendré toute la suite, quoi.
Et c'est ce que vous préfériez, qu'il vous prévienne de l'ensemble de ce qui allait arriver le plus vite possible, plutôt que de cacher au fur et à mesure des possibles interventions
Alors, ça sert à rien de cacher la maladie, hein, de toute manière, que ce soit moi ou n'importe quelle femme. Quand on fait une autopalpation sur nous, on sent déjà une petite boule, on sait très bien que, voilà, il y a quelque chose d'anormal. Donc, je pense pas qu'il ait voulu cacher les choses. Je pense qu'il a voulu préparer comment discuter avec moi, avec mon mari. Je pense que c'est plus ça.
Vous m'avez parlé tout à l'heure, hors antenne, quand on préparait cette émission, de cancer génétique. C'est quoi un cancer génétique ?
Alors, un cancer génétique, c'est un cancer où est-ce qu'on a des cellules et des gènes, donc certains gènes qui s'appellent le BCRA1 et le BCRA2. Ce sont des gènes qui sont assez importantes, qu'on trouve dans les cellules héréditaires. Et donc, ça touche plusieurs membres de la famille. Au départ, moi, pour ma part, je ne savais pas que j'avais un cancer génétique. Mais suite à l'annonce de ma sœur qui était malade en premier avant moi, ils ont préféré, les médecins, faire une recherche. Donc ça part effectivement comme un arbre à généalogique, on fait des recherches. Sauf que de mon côté à moi, pour l'instant, malheureusement, que ce soit du côté de mon papa ou du côté de ma maman, on n'a pas retrouvé des traces, excepté des oncles. Enfin, ça remonte à très très loin. Donc du coup, ils se sont basés sur les résultats de ma sœur et du mien. Et il faut compter environ 6 mois à 1 an pour avoir les résultats. On fait une simple prise de sang dans un service oncologique génétique. Donc ça, vous n'allez pas le trouver sur Nevers, hein. Vous allez le trouver dans les grands centres, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon. Et donc on fait une prise de sang et après, ils font cette recherche-là. On peut avoir qu'une seule cellule génétique, donc le BCRA1 et ou l'autre, le BCRA2. Et malheureusement, moi, j'ai les deux. Donc, quand on a les deux, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, on a une prise en charge dès le départ. Donc, on est pris en charge au niveau imagerie médicale, IRM, scanner, mammographie, environ 2 à 3 fois par an. Mais il n'y a pas que ça, ça touche aussi les enfants. Donc, mes enfants, j'ai 2 filles, peuvent être touchées par le cancer génétique. Et malheureusement, donc à l'âge de 20 ans à peu près, elles seront, si elles le veulent, parce que c'est pas une obligation, mais si elles le veulent, elles feront cette prise de sang.
On va revenir justement tout à l'heure sur le rôle de vos enfants et la prévention aussi que vous avez pu leur apporter grâce à cette expérience. Mais vous leur conseillez justement de faire cette expérience-là, vos enfants,
de faire
ce test génétique.
Alors, je les oblige pas. Après, donc Lou, elle est pas encore en âge.
C'est la plus petite, hein.
C'est la plus petite. Elle est pas encore en âge de faire cette prise de sang. Par contre, donc Orlan a été beaucoup touchée par ma maladie en 2014 parce qu'elle était à l'époque ado et Lou beaucoup plus petite, avait 7 ans. Et Orlan, dès le départ, elle m'a dit « Maman, je me ferai suivre, je crois que tu me dises comment faut faire et tout ». Et donc là, à l'heure actuelle, elle en parle de faire cette prise de sang.
Justement, ça fait partie des étapes du processus de guérison, la part de vos enfants aussi dans cette maladie. Comment vous avez vécu cette période ? Il y a plusieurs étapes plus ou moins joyeuses, j'imagine, de cette période. Et puis, il y a aussi un terme qui rentre en compte, c'est l'hormonothérapie.
Donc, du fait que j'ai eu un cancer, donc on va repartir sur le début de mon premier cancer, parce que j'ai récidivé il y a 2 ans. Donc, mon premier cancer sur le sein droit, ils ont découvert, donc, à l'autopalpation, je l'avais découverte aussi, donc une tumeur de 3 cm de diamètre. Mais ce qu'on n'avait pas vu et ce qu'ils n'avaient pas vu au départ, et suite à un IRM mammaire et une mammo, c'est que en fait, j'avais plusieurs cellules qui englobaient tout le sein. Donc là, ils ont décidé de faire l'ablation du sein, parce que c'est ce qu'ils ont dit à mon mari, si on n'enlève pas le sein, ils craignaient que, ben, comme c'est un cancer infiltrant, que
ça. Il y a des récidives, en fait.
Ça peut partir très, très vite, en fait.
D'accord, ok.
En l'espace de 15 jours, un mois, des cellules comme ça, ça va très, très vite.
Et que ça devienne un cancer généralisé, en fait.
Généralisé et métastasé, quoi, en fait. Donc là, à l'époque, ça faisait 4 tumeurs, hein, donc ils les ont enlevées. Et on enlève la chaîne ganglionnaire. La chaîne ganglionnaire, c'est pour vérifier, justement, si ça n'a pas infiltré ailleurs. Donc on enlève le ganglion sentinelle. Donc un premier ganglion, et ils l'analysent tout de suite au moment qu'ils font l'opération, et ils nous disent si c'est envahi ou pas, ou s'il y a d'autres parties du corps qui sont envahies. Donc dans mon cas, moi, c'est un cancer infiltrant, j'ai eu un ganglion qui était touché, donc ils ont enlevé tous les ganglions que j'avais dans le bras, et pour jouer la sécurité. Et suite à cela, donc j'ai subi la chimiothérapie, période très difficile. Donc la période difficile, c'est la perte de son sein, hein, parce que ça touche la féminité, et donc pour les femmes, c'est très très difficile.
Oui, il y a un aspect aussi physique qui est engendré, oui. Bien sûr.
On a beaucoup de mal à se regarder dans une glace, et d'où le fait que j'ai tenu à faire ma reconstruction. Et donc ensuite à ça, donc j'ai fait de la chimiothérapie, et en chimiothérapie, donc ils m'ont annoncé que j'allais avoir des séances de rayons, donc j'ai eu 25 séances de rayons. Et ensuite, on m'a dit, l'hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, c'est un traitement, normalement, qu'on a environ 5 à 7 ans. Donc, ça traite et ça repousse au maximum le cancer pour qu'il revienne, en fait. Donc, parce qu'en fait, on nous dit toujours, on peut pas vous guérir d'un cancer. On peut repousser la maladie, mais on peut pas la guérir. Et donc, ils pensaient vraiment, donc, au bout de 7 ans, que ça marcherait super bien parce que zéro récidive, tout allait bien. Christelle, elle allait super bien, comme on disait. Sauf qu'un matin, Christelle, elle allait pas bien. Elle est allée passer un IRM mammaire de contrôle, d'où le fait de la génétique.
D'accord. Ce fameux contrôle qui revient tous les deux ans.
Non, tous les ans.
Tous les ans, pardon.
Pour une femme, dans mon cas, qui a un cancer génétique, c'est 2 à 3 fois dans l'année.
D'accord.
Pour une personne qui n'a pas de cancer ou qui a eu un cancer mais qui ne se base pas sur la génétique, on va lui conseiller donc à partir de 50 ans de faire d'où Octobre Rose justement de faire de l'autopalpation et de faire une mammographie de détection au cas où, voilà. Okay.
De contrôle entre guillemets.
Voilà, à partir de 50 ans, c'est les bases qu'il faut faire, c'est voilà. Mais dans une personne qui a un cancer génétique, on lui demande et d'où quand elle est tombée malade, naturellement, on lui demande de venir 2 à 3 fois dans l'année pour vérifier que tout va bien. Donc, il y a 2 ans, je suis allée passer mes examens de contrôle, donc échographie, mammographie et IRM. Et à l'IRM, ils n'ont strictement rien vu. C'est à la mammo qu'ils ont découvert des cellules, donc des toutes petites cellules qui faisaient à peu près, sur une petite flèche, donc sur une ligne. Et dans ces cellules, ils ont retrouvé des cellules cancéreuses. Et donc encore un cancer infiltrant. Mais ça a touché l'autre sein, le sein gauche. Donc on m'a pas enlevé mon sein. On m'a simplement dit que j'avais le choix entre soit le conserver ou soit l'enlever. Mais par contre, j'avais un risque pulmonaire.
Parce que la maladie était moins propagée à ce moment-là, parce qu'elle était moins...
Elle était au début.
D'accord.
Elle était au début. La seule chose, c'est qu'ils ne pensaient pas retrouver une tumeur infiltrante. Donc ça, c'est plus embêtant dès lors qu'on trouve une tumeur infiltrante. Donc, ils m'ont demandé mon choix et j'ai dit maintenant, si on peut, si j'ai encore un risque de récidive, autant que je garde mon sein et vivre au jour le jour, comme on dit.
D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que vous avez fait ce choix-là. J'imagine que ça engendre aussi un coup au moral, j'imagine, au-delà d'un problème, de se regarder dans la glace, comme vous dites, ça amène un coup au moral aussi. Comment on explique à ces enfants cette période-là? Comment on leur explique ce que vous vivez?
Alors, à l'époque, donc Orlan avait 14 ans, en 2014. Donc Orlan avait vécu la tata malade, donc ça a été très difficile déjà cette période-là. Et donc lui, au départ, je voulais pas leur dire. C'était compliqué d'expliquer un petit peu ces choses-là.
À ce moment-là, Orlan, votre plus grande, avait quel âge?
14 ans.
Et Lou avait donc 7 ans, c'est ça?
Tout juste 7 ans.
Ouais. Donc Lou était moins en âge de comprendre que Orlan.
Elle avait très bien compris, Lou, parce que 2 ans avant, elle était malade, Lou, donc elle connaissait bien la maladie. Pas de cancer, mais d'autres choses. Et Lou, en fait, elle se cachait derrière la porte de ma chambre quand l'infirmière, elle venait, et elle voulait voir ce qui se passait. Mmh. Et donc, de là, l'infirmière m'a dit, il faut pas lui cacher, au contraire, il faut la laisser regarder et lui expliquer les choses dans des mots d'enfant.
Dans des mots d'enfant, oui, bien sûr. Ouais.
Alors là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'était une ado. Et on lui a demandé à la fois d'apprendre la nouvelle que sa maman est malade, mais aussi de jouer le rôle de seconde maman pour la petite sœur quand la maman est pas là. Parce que je peux dire que j'ai eu l'hospitalisation, il y a beaucoup.
Oui, il y a beaucoup d'absences aussi à la maison qui font que Orlan a pris votre rôle dans, pour accompagner Lou.
Ouais,
dans...
ouais. Et ça se ressent encore un petit peu aujourd'hui, justement, à garder ce petit rôle-là. Et donc, il y a 2 ans, j'ai failli prendre. Enfin, c'est comme si je prenais une gifle, quoi, il y a 2 ans. Je ne pensais pas du tout récidiver. Et quand je l'ai appris, c'est simple, je n'avais pas du tout envie de leur dire. Parce que je me suis dit, on repart encore sur des traitements, des choses.
Et le problème d'amener une certaine inquiétude aussi, peut-être pour vos enfants, ne pas les stresser dans ce sujet-là.
Ouais, c'est surtout ça. Surtout qu'en plus, elles venaient juste de perdre leur grand-père d'un cancer, et donc leur annoncer 2 mois plus tard que maman est malade, c'est un peu compliqué, quoi.
Justement, quel est le rôle des proches dans une situation comme celle-là? Il y a aussi le rôle de votre mari qui, j'imagine, a été important. Il y a un vrai soutien moral au-delà d'un accompagnement aussi physique ou autre qui pourrait être?
C'est des liens qui se créent, c'est très très fort en fait.
Il y a une autre approche avec même les personnes avec qui on vit pourtant tous les jours.
J'aimais pas du tout qu'on me regarde en pitié. La maladie, voilà, on doit la vivre nous déjà. Donc si les gens, quand ils vous regardent en pitié,
avec les yeux de la peine, c'est pas utile.
Voilà. Ouais, bien sûr. Je préférais plus à la limite, allez, on se booste, Donc quand les gens venaient vers moi et qui me disaient, allez Christelle, on y va, on va faire ceci, on va faire cela, là ouais, effectivement, c'est jamais bien.
Vous en êtes où là à l'heure actuelle? Vous êtes en guérison? Vous êtes à l'après maladie?
Non. Alors je suis à 2 ans de ma récidive. Donc ils m'ont changé mon traitement parce qu'en fait donc l'hormonothérapie qu'ils m'ont donnée après la suite des rayons que j'ai pris pendant 7 ans ne faisait plus effet. Et donc du fait que ça n'a plus fait effet, j'ai eu cette récidive. Ils m'ont annoncé que donc on essayait un nouveau traitement. Donc on essaye un nouveau traitement. Donc ça s'appelle c'est un immunovarien. C'est un traitement à base d'immunothérapie. C'est nouveau. C'est des nouveaux traitements qu'ils essayent pour créer des cellules beaucoup plus fortes que le cancer.
D'accord.
Et donc espérer au maximum qu'on puisse maintenir la maladie au plus loin possible. Parce que donc mon oncologue m'a annoncé qu'avec ce traitement-là, elle ne sait pas si derrière elle pourra me redonner un nouveau traitement.
Vous êtes un petit peu un cobaye de ce traitement-là.
Je suis pas la seule. Apparemment, on est plusieurs avec ce traitement-là. Donc on verra bien.
Vous m'avez parlé tout à l'heure de reconstruction physique, d'importance pour vous de faire une reconstruction.
Alors oui, parce que donc déjà perdre son sein, enfin ou perdre ses seins, c'est pour une femme, c'est toucher à la féminité.
Et vous étiez quelqu'un de coquette.
Très.
Enfin, vous l'êtes toujours d'ailleurs, hein, sans.
Merci, c'est gentil. J'essaye. J'avais tout juste 40 ans quand j'ai découvert mon premier cancer. Et c'est vrai qu'à l'époque, oui, j'aimais bien être coquette. Plus que maintenant, je dirais. Et le fait de me regarder dans la glace les matins et de voir mon cœur meurtri par les opérations et tout, c'est dur. Et ensuite, la perte des cheveux. Donc tout ça, on a du mal, quoi. On a du mal à supporter. Donc pour une femme, c'est très, très dur. Et donc, suite à ça, j'ai voulu faire cette reconstruction. Et en fait, on était dans la salle d'attente avec mon mari et on attendait justement le chirurgien pour nous expliquer comment allait se passer l'ablation du sein. Et j'étais en train de regarder donc un catalogue, ça s'appelle le catalogue Rose Magazine. Donc je vais être dedans d'ailleurs parce que je vais vous raconter pourquoi. Dans ce catalogue Rose Magazine, j'ai découvert un sein tatoué, une reconstruction tatouée. Et donc, j'ai dit à mon mari, tu vois, ça, je le ferai plus tard. Dès que ça ira mieux, je le ferai plus tard. Et donc, un jour, je vois sur les réseaux sociaux que Clermont-Ferrand propose à des femmes de se faire tatouer. Des femmes qui ont été sélectionnées, il fallait simplement qu'elles racontent leur histoire. Donc, j'ai raconté mon histoire et puis ils m'ont contactée. Et aujourd'hui, je suis tatouée. Hein, j'ai un beau tatouage sur. J'ai fait ma reconstruction et j'ai un beau tatouage qui représente des fleurs que j'aime beaucoup et aussi, des petits animaux.
C'est votre façon aussi à vous de garder cette étape de votre vie et en même temps de tirer un petit peu un trait dessus.
Je dirais que ça cache. Donc, on va dire, ça cache les cicatrices. Ça cache à la base les cicatrices parce que la reconstruction, on m'a ramené le muscle du dos. Devant pour remplacer le sein juste avant ça et donc j'avais quand même des belles cicatrices et j'aimais pas me voir dans la glace avec ces cicatrices là et puis le sein en moins quoi. Et donc quand ils m'ont fait ma reconstruction, déjà d'avoir ramené ce muscle, ça a pris une forme de mon sein Et déjà, ça allait beaucoup mieux. Mais il y avait toujours cet aspect qui me faisait rappeler que la maladie était présente et cet aspect de la peau et avec les cicatrices. Donc, j'ai voulu faire ensuite ce fameux tatouage.
J'ai lu dans un article aussi que, à ce moment-là, votre plus grande fille vous incitait à toujours vous maquiller, à toujours prendre soin de vous. Est-ce que c'est ça le plus important, c'est de ne pas se laisser aller dans une période où moralement, comme ça, c'est compliqué?
Alors oui, effectivement, il faut aller de l'avant, comme je dirais, et puis le matin, se dire, ben voilà, comme dirait Orlane, maman, fais-toi jolie aujourd'hui. C'est ça qui compte le plus. Et elle aimait beaucoup, c'est vrai qu'elle avait une maman qui était toujours coquette et avec le grand sourire. Et c'est vrai que suite à la maladie, je perdais beaucoup mon sourire, la tristesse et tout. Et donc, pour elle, ça donnait l'impression que ben, j'étais une maman battante et qui avait envie de faire voir aux gens que j'étais toujours aussi jolie qu'avant.
Le retour à la vie professionnelle, c'est un sujet aussi que j'aimerais aborder. Comment ça s'est passé? Le moment où il a fallu, il aurait fallu retourner à votre ancien travail, parce que je connais un petit peu l'histoire.
Alors, à mon ancien travail, donc j'étais hôtesse de caisse, hein, donc j'ai pas pu reprendre mon travail. Suite à mes opérations, j'ai gardé un handicap. Je ne peux pas me tourner, ou alors faut que je force sur le côté gauche. C'est très difficile pour moi pour me garer en voiture et pour beaucoup de choses, parce qu'il faut pas oublier ça, le côté maladie aussi, avec les opérations qu'on subit et tout, on peut avoir des risques comme ça. Et donc la reprise de travail, j'ai demandé un poste adapté, et à l'époque on m'a dit qu'on pourrait pas me mettre un poste adapté en caisse. Alors j'avais proposé de faire des formations pour être dans les bureaux, mais on m'a fait comprendre qu'il y avait pas de place pour moi non plus. Donc je me suis retrouvée sans travail.
Cette ancienne, oula, 1, 2, 3, cette enseigne-là ne s'est pas adaptée à votre passé, à votre maladie. Vous avez donc été licenciée par la suite et vous avez engagé une reconversion professionnelle, c'est ça?
Oui, alors en fait, donc la seule chose qu'ils m'ont proposée dans cette enseigne, c'est de partir de mon village, de m'offrir une formation, mais voilà, on me faisait déménager. Mais nous, on n'avait pas envie, ni mon mari.
Ce qui était beaucoup trop compliqué pour vous, enfin, votre vie est dans ce village-là.
Voilà, notre ville, pas que pour moi, il faut pas être égoïste, mon mari aussi, il est né là-bas, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui étaient en place, notre maison, enfin nos enfants, donc non, c'était pas question de partir. Donc ils m'ont donné la solution, ben, le licenciement, donc je suis partie. Et je suis restée sans travail environ 2-3 ans après la maladie. Et donc là, je suis arrivée un jour, j'allais chercher Lou à l'école et puis j'ai entendu le directeur qui disait qu'il cherchait une AESH, donc une assistante éducative spécialisée pour les enfants handicapés. Et je lui ai demandé et il m'a dit, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser, il faudrait demander à la mairie. Donc j'ai demandé à la mairie et le maire avait été sympathique. Il m'avait donné à l'époque l'adresse où m'adresser. Et donc j'ai écrit et ils m'ont convoqué 3 jours après et voilà.
Et vous dites dans un article aussi que les enfants des fois sont beaucoup plus compréhensifs que les adultes. Ils posent des questions sans connaître les réponses.
Ouais. Ils posent des questions sans connaître les réponses et ils ont un regard différent des adultes. Certains sont plus compréhensifs et plus ouverts à ce qui se passe. Et quand je les vois, avec les enfants, leurs petits copains et copines qui sont handicapés, je vois comment ils sont avec eux. Ils sont d'une douceur, c'est impressionnant, quoi.
Vous avez aussi maintenant un rôle dans la prévention, justement. Vous êtes à la tête d'une antenne de Ligue contre le cancer dans le Morvan et vous mettez plusieurs projets en place. Alors, le 23 octobre, il y a une marche rose qui arrive, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais il y a aussi des cours de gym adaptés que vous faites. Et, enfin, c'est pas vous qui les faites, vous êtes en lien avec une association, si j'ai bien compris, c'est ça?
Alors, c'est avec l'association Ciel Bleu qui se déplace de Nevers à Moulins-en-Gilbert. Donc, moi, je les ai découverts à l'époque en 2016. J'ai été invitée par le centre social pour des séances de découverte avec Ciel Bleu, de la gym adaptée pour les personnes malades d'un cancer, avec traitement ou hors traitement. Donc j'y suis allée, mais ça a duré que quelques séances, quoi. C'était 4-5 séances et ça s'est arrêté là. Et j'étais venue à une réunion d'information sur le cancer du sein et sur le cancer colorectal avec Isabelle Guyot, qui s'appelle maintenant Isabelle Foulatière. Et on est venu à discuter de ça et je lui ai dit, moi j'aimerais bien mettre en place de la gym adaptée parce que je dis, voilà, dans nos petits villages, on n'est pas assez reconnus, on n'est pas assez aidé sur certaines choses, donc la maladie du cancer. Et je lui ai dit, voilà, on pourrait peut-être mettre des choses en place pour des personnes comme moi, malades, dans nos petits villages. Et elle, elle est partie, donc Isabelle, avec moi. Elle m'a dit, ça m'intéresse. Et on a mis donc des petites choses en place. On a créé l'antenne relais de la Ligue contre le cancer à Moulins-Gilbert. Et donc, elle m'a mis représentante avec deux autres personnes, Geneviève Rousseau et Mireille Dova. Donc, au départ, on est parti juste sur l'antenne relais. Et deux ans plus tard, on a créé une association qui s'appelle l'association Tous Ensemble contre le cancer. Et donc, depuis 2016, j'organise avec elle des marches, donc marche bleue, marche rose. On espère récolter des fonds qui servent à financer la gym adaptée parce que c'est des cours qui coûtent très cher à l'année. Donc, on a réussi petit à petit à mettre des cours en place. Et depuis 2016, ça a lieu tous les ans. Ça a lieu tous les jeudis soirs à la salle polyvalente de Moulins-Gilbert, de 17h30 à 18h30 pour les personnes que ça intéresse. Et je viens préciser, c'est ouvert à toutes les personnes qui sont malades en traitement ou hors traitement. Elles peuvent venir, même si elles sont plus malades, elles peuvent venir à la gym adaptée. Ensuite, on a créé aussi des petits ateliers déco qui sont ouverts justement aux personnes malades pour pouvoir leur changer les idées. Donc, on fait des petites décos et ces décos, on les vend.
C'est revendu, c'est ça?
Oui, on les revend sur des marchés, comme les marchés de Noël, marchés nocturnes. On fait des petites expositions, on va en faire une là fin novembre à la salle polyvalente, le dernier week-end de novembre.
Et c'est de l'argent qui est reversé ensuite à la Ligue contre le cancer, c'est
Alors, tout l'argent, toutes les ventes et tous les fonds qu'on reçoit, on les reverse à la Ligue contre le cancer qui finance nos cours de gym adaptés. À Moulins-Gilbert, parce que ça pourrait partir ailleurs, mais on a fait un contrat, enfin, on peut dire un contrat...
Un accord,
une entente avec Isabelle Foulatière pour que la gym adaptée reste à Moulins-Gilbert et que on puisse continuer à faire persévérer ces petits cours dans nos petits villages.
Et il y a cette marche rose, donc, le 23 octobre. Pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient venir, ça se passe comment? Quelle organisation il y aura pour cette marche?
Alors, le 23 octobre, donc, c'est la 6e marche rose. Donc, c'est à partir de, inscription à partir de 9h. Donc, il y aura une marche de 12 km et une marche de 7 km. Ces marches-là sont organisées et aidées avec l'appui de Morvan Oxygène, qui m'aident tous les ans, qui me font le tracé avec Arnaud Etienne. Et ils font tout. Moi, je m'occupe de rien de ce côté-là. Et je les remercie parce que c'est vraiment... c'est beaucoup d'organisation. Et donc, pour les personnes qui veulent, elles viennent et avec leur petit pique-nique, on mange tous ensemble en espérant qu'on aura le beau temps à la salle polyvalente. Et après, on se dira au revoir. Voilà.
Avant de clôturer cet entretien, quel conseil vous pourriez donner aux femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être atteintes d'un cancer, ou même des personnes qui nous écoutent et qui connaissent quelqu'un qui est atteint d'un cancer qui l'accompagne au jour le jour?
Alors, j'aimerais dire deux petites choses. Donc, pour les personnes qui ne sont pas malades ou qui ont peur de découvrir un jour la maladie, il ne faut pas hésiter à s'autopalper devant une glace ou dans leur chambre ou tranquillement.
Pour effectuer la prévention.
Voilà, pour effectuer une première prévention. C'est ce qui est mon cas et quelque part, peut-être que ça m'a sauvée, je ne sais pas. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais peut-être pas senti cette boule.
Ça aurait peut-être été trop tard au moment d'agir.
Voilà. Donc déjà, pour ces premières femmes-là, ne pas hésiter à s'autopalper, ne pas hésiter à consulter surtout. Et pour les personnes qui sont malades d'un cancer ou qui ont peur de la récidive, continuez à surtout faire les gestes qui peuvent vous sauver. Continuez à suivre les examens poussés, même si des fois on n'a pas envie d'y aller. Parce que je l'avoue, j'ai pas très envie d'y aller. Là, j'y retourne le 25 octobre. J'ai toujours cette appréhension de dire, j'ai l'examen, ça y est, ils vont m'annoncer encore que c'est reparti, quoi. Donc, il faut prendre son courage à deux mains, comme je dirais, et puis penser à nos enfants et aux personnes qui nous entourent en disant, il faut y aller. Enfin, si on vraiment, moi, c'est mon point de vue, moi, j'ai envie de vivre et j'ai envie de continuer à vivre pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, quoi.
Et vivre au jour le jour et en se disant que l'avenir sera beau.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça.
Merci Christelle.
Merci Théo.
Merci d'avoir accepté de témoigner pour Bac FM, merci. C'est la fin de cette émission Prévence consacrée à Octobre Rose. Je vous souhaite une belle soirée sur Bac FM. Tout de suite, le retour de la musique et nous on se retrouve demain à 13h. Bye.